Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Prudencio, créatrice de contenu et créatrice de mode grande taille. Gaëlle est une pionnière du mouvement body positive en France, et c'est justement grâce à cela que nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence organisée sur le sujet par Hello Body. Hello Body est une marque de cosmétiques à base d'ingrédients d'origine naturelle qui a à cœur de célébrer la diversité des femmes et à s'engager pour améliorer leur quotidien. Je salue notamment leur programme Hello Body Cares, un programme caritatif débuté en 2018 en France et à l'international pour défendre les causes humanitaires, environnementales et animales chères aux valeurs de la marque. Hello Body s'engage entre autres pour le droit des femmes, aux côtés de Solidarité Femmes, qui vient en aide aux femmes victimes de violences, Agir pour la santé des femmes, qui vient en aide aux sans-domicile fixe, ou encore Care France, qui soutient les femmes et enfants vivant en milieu de guerre. Et jusqu'au 21 février, Hello Body offre à tous les auditeurs et auditrices d'InPower moins 30% sur tous les produits disponibles sur le site www.hello-body.fr avec le code HELLOPOWER. C'est donc grâce à Hello Body que Gaëlle et moi nous sommes rencontrés et j'ai tout de suite été impressionnée par l'énergie et la bonne humeur qui émanent de Gaëlle. À l'initiative du hashtag French Curves, Gaëlle a permis à de nombreuses femmes de s'accepter et à se sentir légitimes à partager sur les réseaux. Pourtant, Gaëlle elle-même n'a pas toujours été aussi bien dans sa peau, notamment du fait du harcèlement qu'elle a subi durant son enfance au Sénégal et à son arrivée en France. Je remercie sincèrement Gaëlle de s'être livrée dans cet épisode sur le sujet, qui permet de mettre en lumière le phénomène de la grossophobie et la nécessité de le dénoncer. Gaëlle nous partage aussi à travers son témoignage les méfaits de la diet culture et les longues années qu'elle a passées à essayer de lutter contre elle-même en enchaînant les régimes. Enfin, Gaëlle nous livre le combat qu'elle a mené pour trouver sa place, entre différentes cultures, les injonctions de la famille et de la religion, et ses aspirations personnelles et professionnelles. Je pense que cet épisode peut beaucoup vous apporter et il m'a personnellement vraiment fait réfléchir et grandir. Si l'épisode vous plaît, c'est en laissant 5 petites étoiles sur Apple Podcasts que vous pouvez me le faire savoir, et en laissant quelques lignes sur ce qui vous a plu en l'écoutant. Vous pouvez aussi le partager à une de vos amies qu'il pourrait aider, et d'ici là, je suis ravie de vous inviter à rejoindre notre conversation avec Gaëlle. Et c'est lancé. Bonjour Gaëlle.
Salut, je ne sais plus ton prénom.
Louise. Tu le connais
ça
en plus.
Ça commence bien.
Ça commence très très bien. Bienvenue sur InPower, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Oui, alors je m'appelle Gaëlle Prudencio, j'ai 36 ans, 36 ans et demi aujourd'hui, la grosse gamine.
C'est un vrai jour.
Et je fais des comptes pour mon anniversaire à chaque fois, donc là je vais en mettre un sur ma
story. Moi c'est pour Noël que je le fais.
Ah, mais
et ça arrive.
Alors, je suis blogueuse depuis un peu plus de 12 ans maintenant, créatrice de mode. Donc, j'ai créé ma marque de vêtements qui s'appelle Ibilola il y a un peu plus de 2 ans. J'ai aussi créé le hashtag French Curves sur Instagram. Donc voilà, et je parle body positive, vraiment dans acceptation de soi, confiance en soi, tout ce qui a un trait à comment se dépasser et surtout aller là où on ne nous attend pas. Donc voilà, et puis je suis aussi un peu modèle sur plein de différents projets en ce moment, beaucoup beauté.
D'accord.
Donc voilà, ouais. Grosso modo.
Écoute, moi c'est comme ça aussi que je te connaissais et je me demande en fait là, vu que tu me dis ça fait 12 ans que t'es blogueuse et je savais que ça faisait pas mal de temps, je me demande quelle était ta vie d'avant. Déjà, tu peux nous en dire plus sur ton enfance, parce que moi, c'est vrai qu'on se connaît un peu, donc je connais ce que tu fais aujourd'hui, mais je me demande vachement ce que tu faisais quand tu étais enfant et ado.
Alors, déjà, je suis née et j'ai grandi au Sénégal, j'ai vécu aussi un peu au Congo, parce que ma maman travaillait aux Nations Unies, donc elle voyageait beaucoup, et du coup, à un moment, on s'est installé au Congo. J'ai grandi avec ma maman, ma grande sœur et mon grand frère, ainsi que mes tantes. Ma maman elle nous a élevés en tant que mère célibataire avec d'autres femmes. Donc souvent, quand on me parle de sororité, je dis j'ai grandi en plein dedans, quoi, parce que j'étais vraiment avec que des femmes qui s'entraident, Je suis allée, comme j'ai vécu au Congo, je suis allée à l'école française là-bas. Et donc après, en rentrant au Sénégal, je me suis aussi retrouvée dans une école de bonnes sœurs, mais qui avait ce qu'on appelle le programme français, le programme sénégalais. Et du coup, j'étais naturellement orientée pour venir faire des études en France. Et je voulais faire du droit, vu que mes parents avaient divorcé. En fait, j'avais ce truc de vouloir sauver les enfants qui avaient vécu un divorce et que ça se passe plutôt bien. Et quand je suis arrivée en France, je pense que dès les deux premières semaines de cours, je suis arrivée à Douai, dans le Nord-Pas-de-Calais.
Ah, sympa, c'est nickel, voilà. Nord-Pas-de-Calais, c'est cadeau.
Et je suis arrivée là et dès le début, j'ai su en fait que finalement, je voulais pas du tout faire du droit. Mais je sais pas pourquoi j'ai continué, j'ai persévéré jusqu'à mon master. Sans doute parce qu'il y a ce côté où ma maman m'a envoyée pour faire mes études à l'étranger et qu'il fallait pas décevoir.
Ouais.
Donc voilà. Et pourtant, pendant les études, j'ai à un moment donné, je me disais, j'aimerais bien faire de la communication, mais j'ai pas sauté le pas, j'ai pas changé d'orientation, etc. Et souvent, on me dit pourquoi Douai ? Tout simplement parce que j'ai cherché la fac, la plus petite fac en France, et qui serait le plus loin possible de Bordeaux, parce que tous les étudiants qui viennent du Sénégal, en fait, font partie de l'Académie de Bordeaux. Et à un moment donné, si je faisais mes études à Bordeaux, j'allais me retrouver avec tous mes anciens camarades d'école. Et sachant qu'au collège, au lycée, j'avais subi beaucoup de fat-shaming, de grossophobie, de harcèlement scolaire, en fait, je ne voulais pas me retrouver dans la même fac que ces gens-là. Et du coup, je suis allée pour ce que je considérais le bout du monde, qui était Douai et qui, mine de rien, a été un très bon choix parce que les gens avec qui les personnes dont je suis proche, que j'ai rencontrées en France et qui sont vraiment ma famille en France, ce sont les personnes que j'ai rencontrées la première semaine de fac à Douai.
Incroyable.
Voilà, ma meilleure amie, sa fille, c'est comme ma fille et c'est une fille du Nord, quoi. Donc voilà, du coup, après ça, j'ai fait une partie de mes études à Douai. Ça a été très compliqué parce que j'aimais pas. Et j'étais aussi dans une phase où je me cherchais. Donc j'ai eu beaucoup de mal à continuer à terminer mes études. J'ai repris quasiment toutes mes années. J'ai fait une partie à Douai, puis une autre partie à Lille. Et j'ai persévéré, quoi. À chaque fois, ça n'allait pas, mais fallait que je termine l'année. Donc, j'ai redoublé. Et la chance que j'ai dans mes redoublements, c'est qu'en fait, à chaque fois, je ratais l'année pour une matière ou deux. Donc, il y avait cette histoire de trimestre, là, où j'avais pas les mêmes matières d'un trimestre sur l'autre. Et ça me permettait, en fait, de faire des stages. Le truc avec moi, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de pratique. Et en fait, la théorie de la fac, ça n'allait pas.
Surtout le droit.
Mais voilà. Et le par cœur, etc. Finalement, ça, c'est un truc qui ne me convenait pas.
Ouais.
Et donc, j'ai réussi à transformer ce truc-là de rater la formation théorique en faisant des stages qui étaient vraiment plus ou moins longs, entre 6 mois et 9 mois. Et tout de suite, quand j'ai eu mon master, en fait, j'avais déjà ce côté pratique et pro qu'on n'a pas à la fac et qui manque. Je trouve que ça manque réellement quand on sort de 5 ans d'études en fac. En fait, on ne sait pas travailler en entreprise.
Mmh.
Et moi, j'avais ce côté-là. Du coup, étant dans le Nord, étant à Lille, j'avais du mal à trouver un emploi là-bas. J'ai postulé à Paris un soir. J'ai dit, je postule à Paris. Si je trouve un stage, un job, c'est bon, je quitte Lille. J'ai postulé un dimanche soir. J'ai eu un entretien téléphonique le mardi. Je suis allée à Paris le jeudi et je commençais mon stage le lundi qui a suivi.
Faut toujours oser. Hein.
Mais toujours, quoi. Et en plus, j'avais deux rendez-vous le même jour dans deux boîtes complètement différentes. Et j'arrive pour mon premier jour. Ça s'est super bien passé. Au bout de 2 mois de stage, donc j'avais 6 mois de stage qui étaient prévus. Au bout de 2 mois, ils m'ont dit qu'ils voulaient me proposer un CDI, etc. Et le truc, c'est que moi, j'étais étudiante étrangère à l'époque. Et quand on est étudiante étrangère, en fait, pour pouvoir travailler, il faut qu'on change de statut, qui était statut de salarié étranger. Et cette entreprise a fait tous les papiers pour moi, dont payer un peu plus de 1000 euros
ouais.
À l'État pour que je puisse devenir salariée. Et en gros, prendre la place d'un Français, en fait. Donc, voilà. Et j'ai fait 4 ans dans cette entreprise. Il se trouve que je recrutais des babysitters. Donc là, j'avais fait un master en droit du travail. Et ensuite, donc là, je me retrouvais à faire des ressources humaines.
Ouais.
Et à faire du recrutement. Donc, je recrutais des babysitters, des nounous dans une agence de garde d'enfants. Et je faisais aussi du commercial. Et donc, il fallait vendre des solutions de garde d'enfants, famille, etc. Mentir un peu par moment. Oui, oui, c'est sûr.
Enjolivé.
Oui, voilà. C'est sûr, vous aurez votre babysitter le premier jour de la rentrée. Oh. Mi-novembre, il n'y avait toujours pas de babysitter. Mais ça fait partie du job. Et en parallèle, j'avais créé mon blog.
D'accord.
En fait, quand je faisais mes études.
Ouais.
Peut-être que je te laisse poser une question.
Si bah, en fait, là, c'est clair que c'est génial. Hein. Franchement, limite, ouais. Je pense que je pourrais laisser le mic et on aurait l'épisode. J'adore. Mais tout de suite, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée parce que bah, j'aime bien vraiment faire découvrir une personne et parler des spécificités de chacun et de chacune.
Mm-hmm.
Je ne savais pas que tu avais été victime du coup de fat-shaming dès l'enfance.
Ouais.
Et en fait, j'aimerais qu'on en parle parce que je pense que peu de gens sont au courant vraiment de ce que c'est.
Mm-hmm.
Peu de gens, je pense, sont au courant de la discrimination que tu dois subir au quotidien, sachant qu'en plus, t'es une femme noire.
Mm-hmm.
Donc, est-ce que tu peux nous raconter, bon, t'avais pas ce côté-là, du coup, j'imagine, au Sénégal,
oui,
mais
exact.
Comment est-ce que t'as vécu, enfant, le fait d'être body-shamée?
Mm-hmm.
Et je sais qu'aujourd'hui, t'es hyper à l'aise dans ton corps et tu aides d'autres femmes à l'être. Mm-hmm. J'imagine que c'était pas le cas quand t'étais enfant, quoi.
Bah, moi, à la base, honnêtement, je me suis toujours sentie bien dans ma peau. J'ai okay. toujours été la petite boulotte, j'ai toujours été rondouillette. Mais dans mon esprit, c'était pas un problème. Et ça a commencé à être un problème dès lors que, à chaque fois que j'allais dans une fête de famille, les oncles, tantes éloignés me faisaient des réflexions sur mon poids. À chaque fois que j'étais dans la cour d'école et que je voulais jouer, tu sais, on saute à l'élastique, etc., on me disait, toi Gaëlle, tu comptes pour du beurre ou tu joues pas avec nous. Quand on se moquait de moi dans la cour d'école et que j'allais me plaindre auprès de la maîtresse, en fait, c'était moi qui me prenais des coups. Parce qu'en plus, nous, au Sénégal, à l'école, on te tape, voilà.
Ah, d'accord.
Ça a vraiment commencé de façon assez insidieuse. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire qu'en fait, ouais, il y a un problème. Que c'est pas normal que je sois plus grosse. Alors que sincèrement, je regarde les photos aujourd'hui.
Mmh.
C'est surtout que j'étais plus grande.
Ouais.
J'ai toujours été plus grande que tout le monde. voilà. Et au fur et à mesure, je crois que j'ai été dans une posture où du coup, j'ai commencé à être mal dans ma peau. Et donc, il fallait un bouc émissaire pour tout, il fallait une tête de turc, et ça tombait sur moi. Et là où ça a vraiment été très difficile, c'était en classe de seconde. J'étais dans une classe avec, tu sais, les ados, quoi, bêtes, méchants. Et avec un groupe en particulier qui m'avait prise en grippe. À chaque fois que j'allais au tableau, c'était des sobriquets, la grosse, Mama Africa... Biggie, c'était vraiment tous ces pseudonymes-là. Je pouvais pas du tout m'exprimer. Mes devoirs, on notait pétasse, des choses comme ça. Et ça a été très très dur. C'est-à-dire que j'ai failli rater mon année de seconde à cause de ça. Et c'est vraiment un groupe qui, c'était des garçons, qui étaient méchants avec moi. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a une classe de théâtre qui s'est créée à ce moment-là au lycée avec un prof merveilleux, c'était le prof d'histoire. Je me suis inscrite à ce cours de théâtre et je lui dis à chaque fois qu'il a sauvé ma vie parce que honnêtement, je ne pense pas que j'aurais survécu à cette classe de seconde. Alors, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que quand j'ai eu 12 ans, j'ai perdu ma grande sœur qui avait 18 ans. Et ma grande sœur s'est suicidée. Et donc, il se trouve que la façon dont moi, ce dans quoi je me suis réfugiée, c'était de manger. C'était de prendre de la place avec mon corps. Et ça, je l'ai intégré et compris seulement il y a quelques années en commençant une thérapie. Et en essayant de comprendre pourquoi je mange, en fait. Et donc, entre mes 12 ans et mes 17 ans, je perdais beaucoup de poids. En classe de seconde, j'étais tout le temps au régime. J'ai été au régime jusqu'à mes 20 ans, quasiment tout le temps. J'ai perdu à peu près 150 kilos entre mes 12 ans et mes 20 ans, à force de perdre et de prendre du poids. Et donc, cette classe de seconde était le paroxysme de la méchanceté. Heureusement qu'il y a eu ce cours de théâtre et que grâce à ce cours de théâtre, j'ai appris à reprendre possession de mon corps dans l'espace, à pouvoir jouer des rôles, improviser, prendre confiance en moi. Et je pense que j'ai toujours aimé ce truc d'être sur le devant de la scène, d'où le fait d'être blogueuse, machin. Parce que y avait les spectacles et en fait c'était les moments où je pouvais briller. Et je brillais sur scène. Le lendemain, à l'école, tout le monde me félicitait et au fur et à mesure, j'ai commencé à devenir la fille populaire de l'école. Je suis passée de celle dont on se moquait à celle qui elle est dans la troupe de théâtre, etc. Et elle s'en fout en fait, parce que il y a beaucoup de choses que les ados ils peuvent pas faire, c'est-à-dire se mettre en scène comme ça, se retrouver dans des situations ridicules sur scène. On le fait pas forcément quand on est ado. Et ça, c'était une façon pour moi de dépasser mes limites. Et là, j'ai commencé à gagner le respect de mes camarades. Et heureusement, ensuite, je suis passée en terminale L, enfin en première et terminale L. J'avais plus tous ces cons là avec moi. Et d'ailleurs, ma classe, on a fait 80% au bac. Voilà. Et ça, c'est une anecdote qui est quand même assez spéciale parce que plus de 15 ans après, c'était là en 2016, j'étais dans une démarche de travail par rapport à mon blog, à changer la façon dont je m'exprimais. Avant, j'avais plusieurs pseudos sur Internet. Je m'appelais Vanou parce que mon second prénom, c'est Vanessa. Mon blog s'appelait Les Pitreries de Vanou. Donc, j'étais dans ce rôle de la grosse rigolote qui veut se faire accepter, etc. Et il y a 3 ans, j'ai dit, j'ai quitté mon boulot. J'ai commencé à bloguer il y a un certain nombre d'années. Je veux gagner de l'argent avec ça. Donc, je veux faire le nécessaire pour savoir comment on gagne de l'argent avec le blogging, avec Internet. Et du coup, j'ai tout changé. Je me suis fait coacher, accompagner par une agence, etc. Et le jour où je finis d'écrire un article sur mon ancien blog pour dire « ça y est, c'est fini, la Gaëlle rigolote, maintenant on passe aux choses sérieuses, je vais monter ma boîte, etc. », il y a un mec qui m'appelle, donc il a transmis mon numéro, il me dit « ouais, c'est un tel, on était dans la même classe à Dakar, et ce mec est devenu imam au Sénégal ». Et il me dit, on vient de sortir du ramadan et j'ai fait un prêche le dernier jour du ramadan, le jour de l'Aïd, sur le fait de demander pardon. Et pendant tout mon prêche, je pensais à toi et à tout ce que je t'avais fait subir au lycée. Et donc, je t'appelle pour te demander pardon. J'ai fondu en larmes et même là, d'en reparler, ça me... Parce que il avait pris conscience de ça. Et je me suis dit, tout n'est pas perdu en fait, parce qu'il a sans doute des enfants aujourd'hui. Et je me suis toujours dit, j'espère que ces enfants vivront un jour ce que c'est que le harcèlement scolaire. Et aujourd'hui, je ne me dis plus la même chose. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Et ça m'a énormément touchée de me dire c'était un peu comme si les choses se rejoignaient en fait. Qu'à ce moment, j'ai décidé d'être... de prendre vraiment le lead de ma vie. Pouvoir il y avait ce vie. Truc-là, ouais.
C'est le thème du podcast.
Ouais. Ah, yes. c'est tout concordé, tout s'aligné. Je ne sais plus où on
se trouve. Moi aussi, je m'oublie. Mais c'est génial. Enfin, tu nous as donné beaucoup plus que ce que j'espérais. Donc, ouais. C'est top. Et du coup, pour rebondir là, juste sur ce que tu viens de dire, c'est tu t'es autorisé à prendre le poids de ta vie. Au final, il y a... 3 ans, si je comprends bien.
Oui, vraiment.
Pourquoi tu penses que tu t'es pas autorisée avant? Et qu'est-ce qui a, je pense, été... Enfin, qu'est-ce qui t'a donné confiance pour y arriver? Et peut-être, qu'est-ce que tu aurais fait, en fait, différemment pour prendre le pouvoir de ta vie plus tôt?
Je pense que c'est très culturel. Étant sénégalaise et béninoise, enfin, dans la culture dans laquelle j'ai grandi, on vit en communauté. Le fait d'être une personne détachée du groupe, c'est quand même très spécial. C'est un peu comme si tu trahissais la communauté. Et jusqu'à il y a 3 ans, j'avais mon blog, c'était voilà, c'était pour le fun, c'était un hobby. Mine de rien, j'ai fait des études de droit, j'étais quand même destinée à une certaine carrière. Et quand j'ai commencé à tenir mon blog, même au tout début, quand j'avais un skyblog, j'ai reçu des menaces un peu de la famille me disant « Non, t'as pas... Enfin, il faut être pudique, quoi. T'as pas à te montrer, à t'exposer, etc. » Donc, j'avais arrêté mon premier blog. Ensuite, j'ai recréé un autre blog en cachette. Et en fait, au fur et à mesure, parce qu'il était vraiment très suivi, il a commencé à être connu. Et puis, avec l'arrivée de Facebook, à un moment, j'ai dit « Bon... j'en ai marre, je poste mon truc sur Facebook. » Mais culturellement, je ne suis pas censée me détacher du groupe et m'exprimer plus que ça. C'est une culture où on est très... ouais, on ne s'exprime pas. C'est-à-dire que parler du suicide de ma sœur, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Moi, je le fais parce que je trouve que c'est important qu'on puisse aborder ces questions-là et qu'on fasse attention les uns aux autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est très, très rigolo, très jovial, très vivant, etc., que cette personne-là ne peut pas avoir des moments de doute. Et voilà, donc c'est, pour moi, c'est important d'en parler. Ouais. Le fait de parler du corps, c'est des choses qu'on ne va pas forcément faire dans ma culture. Le fait de mettre en maillot sur Internet. C'est plein de choses que j'ai fait petit à petit qui ont mené à un moment donné à ce truc du « maintenant, je me sens libre ». Et il y a des moments où je vais avoir des conversations avec ma mère, on va me dire « oui, non mais attention, machin, faut pas faire ça, etc. etc. » Mais ce que je dis toujours à mes parents, c'est que vous avez décidé, vous, à un moment donné, de me payer des études à l'étranger, de me faire sortir de la culture et du pays. Donc forcément, il faut accepter que je vais gagner aussi au change avec ce que je vais apprendre de la culture des autres. Je suis africaine et je suis très, très attachée à certaines traditions. Je suis chrétienne aussi et très attachée à ma religion. Mais je suis aussi française, je suis aussi laïque et je suis tout ça. En fait, Gaëlle, c'est tout un mix de ça. Et à un moment donné, j'ai vécu en fait la moitié de ma vie en France et cette moitié de vie-là, en fait, c'est toute ma vie adulte. Donc, au bout d'un moment, je me dis, ben, il est temps que je vive vraiment la vie que je veux vivre. Il est temps que je sois complètement en accord avec celle que je suis à l'intérieur, celle que je suis à l'extérieur, celle que j'ai découvert au fur et à mesure, en fait. Parce que moi, j'estime que le blogging, ça a vraiment été une thérapie. Dans la mesure où j'ai appris à m'exprimer, j'ai eu la chance d'un jour avoir un Internet, un ordinateur, des gens qui me lisent, avoir un espèce de journal intime ouvert sur l'extérieur et de me dire, ben j'ai le droit en fait, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire que je suis triste parce que j'ai perdu ma sœur et que j'ai perdu mes repères et qu'à un moment donné, ben je me suis mise à manger parce que j'étais pas bien. J'ai aussi le droit de dire que je suis grosse et je suis bien dans ma peau et que ça ne m'empêche pas à un moment donné de dire je veux perdre du poids, que ce n'est pas du tout antinomique, que je peux dire je suis une femme noire, une femme africaine et que j'ai envie de me mettre en maillot de bain sur Internet et que je n'en ai absolument rien à foutre de ce que les gens peuvent penser parce que le body shaming que j'ai subi à l'école, ben, je le subis aussi sur Internet, forcément, parce que je m'expose. Et qu'on me dit oui, mais t'as décidé, ok, il n'y a pas de problème, mais j'ai aussi le droit de vous bloquer.
Non, mais ça, c'est, voilà. Ouais, c'est une réponse que je trouve absolument, enfin, clairement absurde et stupide. C'est pas parce que tu te montres sur Internet que tu appelles à la méchanceté gratuite.
Exactement.
C'est, on a le droit de débattre, on a le droit on appelle à une certaine exposition, mais ça n'appelle pas à la méchanceté. Enfin, il faut quand même le souligner, quoi.
Et pourquoi tu me suis, en fait ?
Oui, c'est ça. Et souvent, ils ne te suivent même pas. Souvent, ils te stalkent et ils essayent de déverser une haine qui leur envoie des problèmes qu'ils ont avec eux-mêmes.
C'est impressionnant parce que moi, une fois, je me suis retrouvée sur une page Facebook avec une photo de moi en bikini où j'étais très, très heureuse. Enfin, j'étais toute souriante et tout. En plus, c'était un sacré pas pour moi. Et je me suis retrouvée sur cette page avec je ne sais combien, il y a eu 5000 partages de ma photo. À aucun moment, il y a mon nom. Non, mais sérieusement, déjà, j'ai perdu des vues sur mon blog. Mais 5000 partages où honnêtement, il devait y avoir 3000 partages d'insultes.
Mais donc c'est une forme d'harcèlement en ligne aussi, quoi.
Mais complètement. Et finalement, heureusement qu'il n'y avait pas mon nom, parce que sinon, voilà, on serait venu m'insulter directement sur mes réseaux et tout ça. Mais ce qui revenait, c'était toujours ce truc-là. En tant que femme, qui plus est en tant que femme noire et femme africaine, t'as pas le droit de t'exposer, de montrer ton corps, faut être pudique, etc. Et puis voilà, c'est fat shaming, body shaming, slut shaming, c'est tout ça qui y va, quoi. Et moi, je dis non, en fait.
T'as raison. Mais c'est fou, en fait, je trouve, dans ce que tu racontes, à quel point ça met le doigt sur, je pense, beaucoup de questionnements auxquels, je pense, doivent faire face les personnes qui nous écoutent. C'est, en fait, quand on a une famille, une culture, une religion qui nous fait naître dans, sur une certaine voie, c'est très dur d'arriver à se défaire, j'ai envie de dire, des attaches qu'on nous a collées. Et dans ce que tu racontais, j'avais vraiment cette image de toi, tu vois, qui enlève au fur et à mesure des poids ou des attaches qui te retenaient vers une certaine Gaëlle, qui au final n'était pas celle que tu avais choisi d'être, et que ça se fait pas du jour au lendemain, il faut le dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent non, moi j'arriverai jamais, qui ont trop peur peut-être du regard de leurs parents ou de la société, mais à ces personnes-là, j'ai envie de leur dire tenez bon, ça sera pas facile, c'est facile pour personne, et tu en es la preuve, mais si tu crois en toi et que tu restes fidèle à toi-même et à ce dont tu as envie, je pense que c'est la seule chose qu'on peut ne pas regretter, quoi.
D'ailleurs, moi je me demande toujours, ce que je serais devenue si j'avais pas décidé de prendre ce fameux lead sur ma vie, quoi. Si j'avais écouté au moment où je commençais mon blog toutes ces personnes qui me disaient non mais c'est trop futile tes histoires de vêtements là, tes histoires de grosses là, pourquoi est-ce que tu t'embarques dans ce truc, pourquoi est-ce que tu quittes ton travail, parce que j'ai quand même quitté j'ai fait une rupture conventionnelle, je suis pas complètement folle, j'ai quand même arrêté de travailler la sécurité de l'emploi, etc. Pour aller m'embarquer dans une histoire de blogging, alors qu'en plus à l'époque il y en a qui gagnaient leur vie avec ça, mais c'était pas non plus comme aujourd'hui, quoi.
Ouais, c'est allé très vite, hein.
Mais ouais, c'est vraiment ces 5 dernières années où ça a vraiment explosé, et je tiens quand même à dire que tout le monde ne peut pas vivre de ça. Faut aussi que qu'on soit honnête sur ce truc du il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus aussi.
Ouais, et en même temps, c'est aussi pas pour tout le monde. Enfin, j'écoutais encore là un podcast avec Amixem, qui est un youtubeur français que je connaissais pas trop, mais je suis tombée sur cet épisode et j'ai écouté. Et il a vachement raison. En fait, c'est très dur quand t'es créateur de contenu, je préfère ce terme, ou inspirateur, inspiratrice, d'être transparent sur tes émotions, ta vie, ton quotidien, parce que il y a ce truc de t'es obligé de dire que ce que tu fais c'est incroyable. Et en fait, je sais que moi je n'ai pas du tout de mal à partager tout, les hauts comme les bas, et à dire qu'on travaille comme des chiens. Moi je travaille de 8h à 23h voire minuit tous les jours. Samedi, dimanche, jour férié, vacances, donc c'est pas non plus pour tout le monde. Et je pense qu'il faut, et c'est d'ailleurs toi-même ce que t'as fait, je veux dire, même si à un moment donné tu t'es dit je veux en vivre, et c'est totalement légitime, t'as quand même blogué pendant 10 ans sans penser à l'argent. C'est toi, c'était plus fort que toi. Comme tu dis, t'avais besoin de t'exprimer, d'avoir cette voix, et que tu sois lui ou pas, quoi. Et ça m'intéresse quand même de savoir, du coup, quand t'as eu cette... tu t'es dit, je veux m'y consacrer, c'est ma passion, je veux m'y consacrer. Quels sont les challenges principaux auxquels t'as dû faire face? Parce que je pense que t'es une des premières personnes qui me dit que tu t'es fait coacher pour cette transition. Avec le recul, qu'est-ce que peut-être tu as retiré principalement de cette, de ce coaching, et quels sont les obstacles ou les challenges que tu as eu à relever?
Le challenge principal, c'était de savoir prendre du recul par rapport à mon ego. C'est que quand tu as quelqu'un qui regarde, qui fait une espèce d'audit de ton compte Instagram et qui te dit cette photo ça va pas, ça faut pas poster, ça ceci, ça cela, ça, tu prends un coup quand même, parce que toi tu vois qu'il y a eu des
interactions,
des likes, etc. Mais si tu veux arriver à tel niveau, ce genre de photo faut pas le poster.
Je suis obligée de rebondir parce que je me dis qui peut se permettre de dire ça.
Moi j'ai, au début, sincèrement, je l'ai mal pris. Je l'ai très mal pris. Et aujourd'hui, 3 ans après, quand je regarde tout le travail qui a été fait, et je peux dire que ça a été très dur comme travail, parce que c'était tout un... Enfin, une espèce de revirement, en fait. Et dans ce revirement-là, à 360 degrés, moi, je suis restée la même. C'est-à-dire que ce que j'ai à dire sur l'acceptation de soi, sur se dépasser, sur être soi, sur tout ça, c'est des choses qui sont inhérentes à ma personne. Et mon parcours, mon histoire, elle est toujours la même. En revanche, la forme a changé. Et quand la forme change, bah, y a aussi l'entourage qui peut changer. Et il y a des camarades blogueuses, par exemple, avec qui je m'entendais vachement bien. On était un peu la bande, les copines et tout. Bah, à partir du moment où je suis devenue un peu plus Gaëlle qui se prend au sérieux et Gaëlle entrepreneur, etc., bah, en fait, les interactions ont changé. Et aujourd'hui, c'est des personnes avec qui je n'ai plus de contact. Ce qui est dommage. Mais parfois, il faut aussi de se libérer. Ça, c'était vraiment difficile pour moi. Mais il faut accepter de se libérer de choses qui ne nous conviennent plus. Je ne vais pas dire qu'ils ne nous tirent pas vers le haut, parce qu'il y a eu une période de ma vie où ces personnes-là et cet entourage-là étaient celui dont j'avais besoin. Mais après, bah, il a fallu passer à autre chose et être entourée de personnes différentes, de personnes qui ont un état d'esprit différent. Et au fur et à mesure, peut-être que les gens avec qui je suis aujourd'hui, ben dans 5 ans, ce ne sera plus du tout les mêmes personnes, que j'aurai d'autres ambitions, d'autres envies, etc. Et donc, en termes de challenge, c'est vraiment mon ego qui a pris un coup, vraiment. Et après, le fait de passer du hobby au boulot, ben, ça n'a pas été cool. Parce que jusqu'alors, j'étais, ben voilà, je postais mes photos, c'était pour le fun, quoi. Même si j'avais fait plein de choses, c'était en fait le fait de, quand on construit une communauté, en tout cas comme moi, je l'ai construite sans m'en rendre compte. Le fait d'avoir créé le French Curves, par exemple, c'était un truc. Je discutais avec des blogueuses à New York un soir. On était ensemble pour un défilé sur la mode grande taille. On discutait de ce qui se fait dans nos pays, etc. Et je trouvais qu'en France, on n'avait pas assez de visibilité en termes de... les blogueuses grosses n'avaient pas de visibilité. Donc, je me suis dit, ah, bah, moi, je vais créer un French Curves. Il y avait un Aussie Curves en Australie. Et ça a commencé comme ça. C'était hyper sympa, hyper fun comme truc. Et avec le recul... Je me rends compte que le fait d'avoir créé ce hashtag, bah, ça a permis à plein de femmes de se révéler. Alors qu'au départ, voilà. Donc, c'était pour le fun. Et à partir du moment où il a fallu commencer à dire, OK, je dois faire un shooting sur ça, poster sur tel sujet, prendre position sur telle ou telle question, parce que... quand on a une communauté, une plateforme comme la mienne, ben parfois, il faut pouvoir s'exprimer sur tel ou tel sujet. Et ça, c'est des choses que je ne faisais pas avant et qui, ben, ça n'a pas été évident pour moi. Et honnêtement, j'ai commencé ce travail en mars 2016. Jusque octobre 2016, ça s'est super bien passé. J'y allais, j'étais à fond et tout. J'étais en plus une espèce d'adrénaline et tout ça. En novembre 2016, je crois que j'ai décroché. En fait, en plus, c'est tombé au moment où j'ai appris que l'une de mes cousines, qui est vraiment ma petite sœur, avait un cancer. Et pendant 3 semaines, j'ai pas réussi à bosser. À être de nouveau dans ce truc du ben, j'ai envie de partager machin, parce que j'étais dans ma douleur, même si c'est pas moi qui étais malade, mais c'était ma sœur, c'est vraiment ma petite sœur qui est décédée il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc j'ai tout arrêté, j'ai arrêté de poster sur Insta. En plus, la personne qui m'accompagnait, jusque là ça me convenait, mais cette personne là m'a dit quelque chose qui m'a pas plu, qui était ben, tu prends le cancer de ta cousine comme une excuse pour ne pas faire le job. En fait, tu es paresseuse. Et ça, c'était trop violent pour moi. Quand je parle de mon ego, ben là, c'était trop pour moi. J'avais accepté beaucoup de choses parce que je sentais que cette personne me poussait loin. Mais même si je sais les 4 accords Toltec, faut pas prendre personnellement, blablabla. Là, j'ai pris personnellement et ça a été stop. J'ai arrêté. Et je me suis dit, ben, j'y arrive pas, j'y arriverai pas, blablabla, je vais aller retrouver du travail. Et j'ai recommencé à postuler. Peut-être j'ai postulé pendant 2 jours. 2 jours après que je prenne cette décision de, en fait, prendre du recul sur ce que je faisais, il y a mon ancienne boîte qui m'appelle, où j'avais fait des missions intérim de temps en temps. C'était Mime, d'ailleurs, qui n'existe plus, qui faisait des vêtements, il y avait plusieurs magasins. Une de mes anciennes collègues qui me dit, écoute, la boîte va fermer, mais on a besoin de quelqu'un au service juridique pour la transition. Moi, j'ai trouvé du boulot ailleurs. Je sais que ça te fait chier de travailler 35 heures. On te propose de travailler à mi-temps avec ton salaire de 35 heures. S'il te plaît, dis oui, machin. Je dis, oh bah écoute, puisque t'insistes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, je me lance comme ça. Je signe le contrat pour commencer 2 semaines après. Et en parallèle, je dis, ben, puisque je ne vais pas passer Noël à Dakar, je vais y aller maintenant. Je pars chez ma mère à Dakar. Et là, il y a eu comme un moment où j'avais l'esprit qui était un peu... Ça allait mieux, en fait, dans ma tête. Et là, je me suis dit, ah ben tiens, ça fait un moment que j'ai envie de créer ma marque. C'était aussi dans comment monétiser son blog, en fait. Hein. D'avoir une marque, ça en fait partie. J'avais essayé plein de trucs, pensé à plein de choses, mais ça prenait pas. Dans mon esprit, c'était pas ça. Ma mère a plein de tissus dans sa chambre qu'elle ne porte pas. Enfin, elle les a jamais cousus, ça fait 25 ans. Et, Regina, si tu écoutes ce podcast, faut qu'on en parle encore de ces tissus. Et j'ai négocié avec elle pour prendre quelques tissus et faire confectionner des jupes. J'ai dit, bon, ben, je vais faire des jupes et je les vendrai, on va voir. Voilà. Et le fait d'avoir dit, je prends du recul, je pars à Dakar, je me retrouve à la base, chez moi, en fait, ça m'a aidé à pouvoir prendre un nouvel élan pour me lancer sur ma marque. J'ai fait les vêtements, je suis revenue à Paris, j'ai commencé le boulot avec Mime, qui était une période très difficile d'une entreprise qui ferme. Ouais. Plus de 500 salariés qui perdent leur emploi. Et toi, tu es au service juridique. Au RH, donc tu sais exactement qui va partir avant qui, comment ça va se passer, et puis c'était une boîte où il y a 80% de femmes et notamment de mères célibataires, donc c'était une période qui était très difficile, mais en même temps que cette période était difficile, j'ai dit à mes collègues avec qui je m'entendais avec tout le monde parce que je suis très sociable, je leur dis voilà, je vais créer ma marque, mais j'ai peur, je sais pas comment faire les photos, etc. Elles me disent, bah, écoute, le studio est libre, on va t'aider à faire les photos. Et ce moment qui était extrêmement difficile pour toutes ces personnes, le fait de m'aider à créer ma marque, ça a été un peu la soupape, l'instant où on sortait la tête de l'eau. Et pendant 2 semaines, ils m'ont aidé à faire tout préparer pour ma collection. Et voilà. Enfin, je sais plus où j'en étais, mais...
J'adore. Non, mais t'inquiète, ouais. Moi, je sais exactement où on en est et j'ai plein de choses à dire. Parce que, en fait, je trouve qu'il y a... J'essaie toujours de tirer un peu les enseignements de ce que disent les invités. Parce que déjà, quand on parle, c'est difficile de le faire à soi-même. Mais aussi, moi, pour structurer un petit peu, mais c'est... Je trouve que c'est génial parce que tu montres beaucoup de choses qu'on ne dit pas assez, je trouve. Mmh. Déjà que derrière toutes les personnes qu'on suit sur les réseaux, il y a des humains. Mmh. Voilà, il y a des événements personnels qui nous arrivent. Mmh. Et une maladie, un décès, ça nous touche tout autant que ça touche en fait le commun des mortels. Mmh. Et que, en fait, ouais, il y a une vraie difficulté aussi avec ce qu'on fait, qui est qu'on ne peut pas se permettre de s'arrêter.
Ouais.
C'est terrible. Moi, je me demande toujours, c'est vrai, s'il m'arrive aussi quelque chose comme ça. Comment je fais ?
Ouais.
Parce que c'est du présentiel, mais vraiment non-stop. C'est-à-dire même un week-end off, en vrai. Enfin, certains le font, certaines le font, mais c'est difficile pour nous. Et il y a ce côté, en fait, où tout métier, au final, où nous sommes notre propre patron, beaucoup de gens l'envient, mais comme tu le dis très bien, c'est pas tous les jours rose. Et je crois que t'es une des premières qui dit que voilà, un moment, t'as eu à retrouver du travail parce que les gens pensent que c'est toujours rose.
Non.
Que les contrats, ils tombent comme comme des fleurs. Pas du tout. Ça demande du travail, ça demande des efforts et on a tous le droit d'avoir des moments de doute comme t'as eu. Au final, je te comprends totalement, quoi. T'as eu un défi à la fois personnel et professionnel à relever en même temps avec quelqu'un qui, somme toute, n'était pas très bienveillant et t'as foutu une grosse pression. Et limite, je trouve que t'as eu une chance de te remettre sur celle assez rapidement.
Ouais.
Et donc, en fait, c'est une parfaite transition pour nous parler d'Ibi Lola, qui est donc ta marque. Est-ce que tu penses que là aussi, tu n'osais pas te lancer, peut-être parce que tu n'avais pas encore assez confiance, je sais pas, ou assez légitime ? Et qu'est-ce que ça t'a apporté au final ? Et ben ouais, comment est-ce que tu le vis aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore plus difficile que ce que tu imaginais ? Est-ce que, voilà, ouais, c'est des challenges quotidiens ? Enfin, dis-nous en plus sur cette transition qui puis un autre métier aussi, quoi.
Ben ouais, alors le fait de créer une marque, bon, déjà, c'est simple, c'est que moi, je suis sur j'étais sur le blogging grande taille, sur la mode, en disant, voilà, à partir du moment où on dépasse une taille 42, on galère à s'habiller. Moi, j'étais obligée d'aller jusqu'aux États-Unis. J'ai la chance d'avoir mon frère qui vit là-bas. Donc, j'allais souvent en vacances aux États-Unis. Je faisais mon shopping là-bas. Ici, j'allais dans tout ce qui est vide dressing, bourse aux vêtements. Et c'est comme ça que la communauté grande taille s'est nourrie pendant des années. Et comme ça qu'on a vraiment une communauté qui est hyper solide aujourd'hui. Mais il manquait un truc. Et il y a eu cette tendance de du wax qui est arrivé, donc les imprimés, les tissus qui sont hyper colorés, qui est arrivé sur le marché et qu'on porte, voilà, aujourd'hui Christian Dior a carrément une ligne qui est dédiée au wax, c'est quand même assez fou. Le truc, c'est que là aussi, on était laissé pour compte. Alors que mine de rien, moi qui ai grandi dans le wax en Afrique, je vois des femmes rondes qui sont habillées en wax, qui sont hyper élégantes, ou qui vont chez le tailleur, et il n'y a pas d'histoire de taille en fait. Et donc, j'avais fait un challenge, un défi French Curves avec les autres blogueuses où le thème c'était le wax et on avait galéré en fait à trouver du prêt-à-porter en wax pour de grandes tailles. Et c'est un peu là que ça a commencé, l'idée a commencé à venir. Et de là, quand il y a cette histoire de jupe que j'ai créée, et en fin de compte, depuis 2011, j'avais eu cette idée. C'est-à-dire que mes jupes en wax, je les porte depuis longtemps. Je faisais confectionner au Sénégal. Je portais sur mon blog. Et une fois, je me souviens que j'avais, dans un article, écrit « Et si j'en faisais faire et que j'en vendais, est-ce que vous allez en acheter ?» Et il y avait eu des réponses positives. Mais à l'époque, je ne les ai pas vues, ces réponses. Mmh. Parce que je n'étais pas sur le sujet. Mon esprit était sur autre chose. Du coup, quand là, je me suis vraiment lancée, que j'ai dit, ok, on fait le shooting. J'ai toujours, dès le début, je voulais avoir ce truc de filles qui font des tailles différentes, que ce soit dans la rue, qu'on voit en fait que les filles qui portent du Ibi Lola, c'est des filles qui sont bien dans leur peau. C'est parce que pour moi, la mode, c'est vraiment pas une histoire de taille. Et que c'est ce qui m'a aidé, moi, à me sentir bien. C'est le fait de poster mes photos, de poster mes looks, de montrer comment j'apprenais à m'accepter. Ça a vraiment été à travers les vêtements. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec cette marque-là. Et donc, j'ai commencé mon truc. J'ai posté les premières photos. Et je sais pas, la réponse a été tellement folle. J'ai pas compris, en fait. Ça a été sold out en 15 minutes, la première collection. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? Et honnêtement, je le dis, c'est pas pour... je sais pas, mais c'est pas pour dévaloriser mon travail. Mais sincèrement, moi, je voulais juste faire des jupes en wax. Je pensais pas que mon chiffre d'affaires, cette année, aurait doublé celui de la première année. Enfin, on est à 2 ans et demi, là. Sincèrement, je ne m'y attendais pas. Et aussi, surtout qu'il y avait une demande, en fait, dans ce truc. Et que ça marche. Ouais. Et donc, ce qui est arrivé avec Ibi Lola, c'est que... Donc, Ibi Lola, c'est le prénom de ma sœur qui est décédée, la grande. Et ça veut dire « toute naissance est une richesse ». La naissance est une bénédiction. Et donc, c'est en Yoruba qui est la langue du Bénin de mes parents. Et c'était comme une évidence pour moi qu'il fallait que cette marque porte le nom de ma sœur. Parce que ma sœur voulait être styliste, elle voulait être designer quand elle est, voilà, de son vivant, c'était ça. Elle était très douée. Et donc, c'était une façon pour moi de lui rendre hommage. Déjà, avec le nom de la marque. Ensuite, l'idée de la marque, c'est effectivement d'apporter ce qu'on n'a pas dans la mode grande taille. C'est des vêtements qui sont jolis, colorés, qui donnent envie, d'être le flic quand on marche, je suis la plus belle sur les podiums quand je suis dans la rue, de pas me cacher parce qu'on a tendance à vouloir cacher les femmes grosses en fait, il faut porter du noir, etc. Avec le wax, c'est pas possible. Hein.
C'est clair.
Là, on ne voit que toi.
C'est joyeux.
Ouais, c'est joyeux, c'est positif, c'est ça en fait l'esprit de la marque. Et puis de ne pas se cacher par rapport au modèle que je fais. Les jupes longues que je fais, il y a des fentes. Il y a des filles qui m'envoient des mails en disant j'aimerais acheter des jupes, mais il y a des fentes. Je ne peux pas porter fait de fonte. Je dis, ben, je suis désolée, moi je fais des fentes. Parce qu'en fait, tes cuisseaux, tu as le droit de les montrer comme tout le monde. Donc voilà, je fais des crop tops. On dit, je sais plus, c'était dans Glamour, je pense, hein, Glamour US, où une journaliste avait écrit que cachez-moi ce ventre que je ne saurais voir. Déjà, en tant que femme, quelle que soit ta taille, on dit que tu n'as pas le droit de montrer ton ventre, un peu de peau, etc. Et quand tu es grosse, alors là, le ventre, c'est vraiment une partie très compliquée pour beaucoup de femmes. Et donc, pour moi, c'est important de pouvoir montrer un crop top pendant l'été. Voilà. Et puis, il y a une autre chose, c'est que j'ai envie de montrer l'Afrique telle que je la connais. Pas ce qu'on nous montre à la télé, pas ce qu'on nous montre dans les médias. J'ai envie de montrer l'Afrique qui est créative, j'ai envie de montrer l'Afrique qui est belle, l'Afrique qui est douce aussi, qui regorge de talent. Et c'est pour ça que je fais faire mes vêtements au Bénin. Et en plus de ça, le Bénin, c'est le pays de mes parents, mais ils sont nés au Sénégal. Et mon père vit au Bénin depuis toujours quasiment. Et moi, je ne connaissais pas le Bénin. Mais quand il a été question de produire vraiment et d'acheter des tissus, bah, en fait, il se trouve que le Bénin est celui où il y a le plus de tissus wax qui arrivent en fait, au port, voilà, que ça arrive de Chine, d'Hollande, etc., ou d'Afrique même. C'est le Bénin est vraiment le pays qui a le plus de tissus. Et j'ai trouvé un atelier là. J'ai dit, bon, bah, let's go, on va au Bénin. Et en fait, c'est aussi un voyage initiatique pour moi. Il y a le côté pro de la marque, mais il y a aussi le côté personnel, où il y a toute mon histoire avec le Bénin que je suis en train de découvrir et que j'ai envie de raconter aussi. Parce que c'est voilà, j'ai grandi au Sénégal. Le Sénégal est très connu, Paris-Dakar. Je connais très peu de Français qui ne sont pas encore allés au Sénégal, en fait. Et par contre, le Bénin, c'est un tout petit pays d'Afrique qu'on ne connaît pas et qui a une culture qui est très riche. Donc, c'est aussi ce que j'ai envie de raconter. Et tout ça, bah, ça fait la richesse de cette marque, quoi. Ouais, quand j'y vais, je partage en story. Et c'est des choses qui sont très naturelles. Je disais tout à l'heure, j'ai toujours voulu faire des études de communication. Quand je lis un peu, je vais sur Google pour voir bah, voilà, comment faire la promotion d'une marque, etc. En fait, il y a plein de choses que je fais d'instinct. Et de poster des photos du pays, des vidéos, de montrer la nourriture. Ben, comme j'aime manger, ben, voilà, je montre aussi. Et ça permet de créer du lien avec les personnes qui me suivent et de leur vraiment de montrer autre chose de l'Afrique. Voilà.
Trop cool. J'adore. J'ai l'impression d'être dans un roman et je le dis souvent des meilleurs épisodes.
Oui.
Et je me demande là, du coup, vu que tu es maintenant à plein temps blogueuse et entrepreneur... si je ne me trompe pas, t'es seule.
Ouais.
Je crois qu'on avait parlé à un café la dernière fois. Tu cherches aussi, je crois, peut-être quelqu'un pour t'accompagner, pour t'épauler.
Ouais.
Comment c'est, en fait, ton quotidien? Si tu peux déjà peut-être nous dire une journée type.
Ouais.
Et comment t'arrives à mener tout de front? Parce que, bon, c'est une question qu'on me pose aussi. Et
oui.
Au final, peut-être que comme moi, tu fais juste de ton mieux.
Ouais, mais sincèrement,
mais dis-nous un
c'est
peu
ça.
Plus là-dessus, quoi.
Déjà, ce qui n'est pas évident pour moi en travaillant toute seule, c'est que l'organisation, ce n'est pas mon fort. Je suis quelqu'un de très dissipé. Je peux être voilà, très facilement...
Distraite,
par un tas de choses. Maintenant, j'ai réussi à trouver mon rythme. C'est-à-dire que je ne me prends plus la tête à me dire « Il faut que de telle heure à telle heure, j'ai fait ça parce que ça ne marche pas avec moi. » J'ai essayé bullet journal, j'ai essayé to-do list, j'ai essayé tout ça. Mais ce que je fais, c'est en début de semaine, je note sur les notes de mon téléphone tout ce que je suis censée faire cette semaine. Et en début d'année aussi, j'ai un planning. En fait, j'ai un planning sur toute l'année avec bah déjà mes ventes. Parce qu'en fait, Ibilola, c'est des commandes,
des précommandes.
Précommandes. Et ce sont des campagnes. Sur 10 jours, vous pouvez commander. Au-delà, ce n'est pas possible. J'ai pas envie de faire de gaspillage de vêtements. J'ai pas de stock. Je ne vais pas dire que c'est une marque éthique et tout ça parce que franchement, c'est du coton. Hein. Donc voilà, je ne suis pas sur ces trucs-là. Mais si je peux produire de façon à peu près raisonnée, ben voilà, je fais comme ça. Du coup, c'est 10 jours tous les 2 mois où j'ai ma collection. Et donc, j'ai un planning sur l'année où je sais que je dois aller au Bénin à telle période, à telle période. Je dois avoir fait tel shooting, telle collection, etc. Et après, ben, en tant que influenceur,
créatrice de contenu,
ben ben, y a des contrats qui tombent. Ça, je sais pas, en fait, parce que, bon, je suis pas encore à l'aise avec le fait d'être commerciale. Mmh. Voilà, je sais pas aller... j'aimerais bien avoir un agent, sincèrement, qui va aller pour moi chercher des contrats, parce que, ouais, ben, voilà, la fille, elle veut manger. Elle veut aussi pouvoir épargner, et à un moment donné, ce serait cool, quoi, d'avoir quelqu'un qui sait faire ça. Donc, pour l'instant, beaucoup de contrats que j'ai, ce sont des choses qui tombent, comme ça. Et par chance, tout va bien de ce côté-là. Mais du coup, c'est des choses qui vont arriver en plus de mon planning.
Ouais.
Donc, en début d'année, j'ai tout ça. Et chaque semaine, je veux faire ça, ça, ça et ça. Et au fur et à mesure de la semaine, je fais de mon mieux. Je fais vraiment au fur et à mesure. Il y a des périodes où je vais être hyper productive. C'est assez impressionnant. Où je vais réussir à t'enchaîner shooting, articles de blog, mettre en ligne le site. Tout ça, c'est moi qui le fais. Tout, le site, tout. Tout ce qu'il y a à faire pour une marque. Heureusement que j'ai quelqu'un sur place, à Cotonou, qui gère, par contre, qui va m'aider pour acheter les tissus, qui va gérer avec l'atelier. Voilà, ça, j'ai
la logistique, quoi.
La logistique, c'est fait. Après, les vêtements arrivent ici. Là, je vais avoir une petite assistante qui va m'aider de temps en temps pour emballer, envoyer les colis. Donc ça, voilà. Mais sinon, le gros du travail, c'est moi qui le fais. Et du coup, te dire une journée type, ben... Voilà, typiquement aujourd'hui, j'avais à répondre à des mails, j'avais des entretiens téléphoniques parce que je fais du consulting aussi. Parfois, il y a des marques qui justement veulent aller dans une démarche plus body positive dans leur communication. Donc, ils font appel à moi, je leur donne des idées et leur propose, voilà, vous voyez, telle marque a décidé de lancer une ligne grande taille. Ben, voici comment ils ont fait. Souvent, c'est les États-Unis, hein, l'exemple. États-Unis, Angleterre. Donc, je fais aussi un peu de consulting. Et après, ben, j'avais le podcast. Mais du coup, entre deux, comme j'étais... en fait, je sors de 4 jours où j'étais en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas prévu. J'ai perdu un ami et je tenais à aller à son enterrement. Donc, je sors de 4 jours qui étaient hyper difficiles psychologiquement. Et je ne suis pas encore sortie de ça. Donc, après mes appels, ben, j'étais super fatiguée. Donc, j'ai dormi. Avant de venir. Là, j'enregistre ce podcast et après, je fais mon marché parce que j'ai la chance d'habiter dans une ville où le marché, c'est le vendredi soir. Donc, je vais faire mon marché et ce soir, je vais sans doute poster sur des stories, etc. Ça va être une journée. Voilà. Une autre journée où je vais avoir un shooting. Si j'ai un shooting toute la journée, ben, je fais que ça. Parce qu'après, tu sais comment ça se passe. Parce que moi, je sais pas prendre... Enfin, avoir un look et en plus, ça, il fait nuit super tôt, je sais pas prendre des photos, machin, être super bien avec mon téléphone et tout. Je préfère que les choses soient gérées, à savoir que aujourd'hui j'ai un shooting, je dois shooter 4-6 looks. J'ai la photographe, la maquilleuse, la coiffeuse, tout le monde est là. On fait tous les looks qui vont être postés entre septembre et octobre, par exemple, et basta. Parce que c'est pas aujourd'hui, je fais plus la promotion du vêtement. Ça va être par rapport à des campagnes en particulier. Aujourd'hui, je fais la promotion d'un message. Donc, mes photos sont un support pour ça. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir une photo qui a été prise à l'instant T. Et après, mes stories, c'est hyper naturel. Voilà. De toute façon, mes stories... Enfin, même moi, quand je regarde, après, je dis mais... Parce que je vais parler des sites de rencontres, les filles, elles adorent quand j'en parle, de mes expériences, etc. Hier, j'ai posté un selfie où je dis, bon, ça, c'est la prochaine photo pour un site de rencontres. Et du coup, il y a un petit sondage.
Laquelle est la meilleure?
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est ça, en fait, une journée type pour moi. Voilà.
Bah, écoute, déjà, je te remercie d'être venue parce que, comme tu dis, tu traverses pas une période facile. Donc, ouais, c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil de ta part. Et tu vois, c'est con, mais en fait, je trouve que ça fait même du bien de t'entendre dire « j'ai dormi ».
Ouais.
Mais je te jure, parce que je pense qu'on est dans une société où, tu vois, on glorifie tellement le travail que limite, t'es un ovni si tu te permets de faire une sieste.
Oui.
Mais à un moment, la machine, il faut la soigner, quoi. Sinon, juste, elle avancera plus.
Et puis, on est en fin d'année. Je pense que c'est pour tout le monde, qu'on soit entrepreneur ou qu'on travaille en entreprise. On est... C'est... psychologiquement, c'est une période, en plus il fait moche et tout, où on n'est pas bien, et c'est important de prendre des moments pour soi.
Ouais.
Je dis pas que je sais le faire à 100%, mais voilà, c'est mine de rien d'être indépendant, d'être à son compte, c'est aussi une chance par rapport à ça. C'est qu'à un moment donné, même si on peut pas toujours tout couper, on a quand même la possibilité de le faire. Alors que quand t'es sur ton 9 to 5, voilà, t'as ton boulot à temps plein, t'es dessus, tu peux pas dire à ton boss, ouais, bon, ben, je prends ma journée, enfin, ça se passe pas forcément comme ça. Alors que quand on est indépendant, oui, c'est possible. Et puis là, par exemple, moi, j'ai décidé que de mi-décembre à peu près mi-janvier, ben, je travaille pas. C'est au-delà des vacances de Noël, mais je vais pas prendre d'engagement, etc., sur des marques, des partenariats. De toute façon, c'est une période calme. Voilà, je décide que je ne vais pas bosser sur ces périodes-là. Je dis ça, je sais que je vais préparer des trucs, des choses par rapport à ma marque et tout, mais c'est censé être une période calme pour moi. Et j'ai appris à dire non. Parce que... il y a une période, par exemple, en 2018 a été une année un peu folle pour moi. C'est-à-dire que j'ai perdu ma cousine en mars 2018. Début 2018, j'ai décidé d'interrompre ma grossesse. C'était des choses qui étaient... Enfin, voilà, c'était deux phases qui étaient très difficiles pour moi. Autant personnellement, ça a été hardcore... Autant ma carrière, si je puis dire, ça a été un truc de fou. Ça a vachement... voilà, c'était vraiment, vraiment une espèce de rouleau compresseur où en même temps, c'était génial parce que j'avais plein de partenariats, j'ai eu énormément de presse. Je pense que je fais partie des créateurs de contenu qui ont le plus de presse aujourd'hui en France. Ça, voilà, beaucoup de télé, de radio, de machin, tout ça. Ça a été une année très, très folle. Et j'ai pas beaucoup dit non. Et je pense que j'avais besoin aussi de me plonger dans le travail pour oublier que j'avais perdu ma petite sœur. Mais là, j'ai appris à dire non. Maintenant, je dis ben non. En fait, il y a des choses, je vais pas dire oui à toutes les propositions. Déjà, en plus, quand c'est pas payé maintenant, voilà. À moins que je t'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a de ça, il y a pas forcément tel média. Et puis aussi, après quoi on court, en fait, finalement. C'est vrai, c'est chouette. C'est chouette ce qu'on vit. Moi, je le dis, il y a des moments où c'est difficile parce qu'on travaille tout seul. Mais mine de rien, c'est vraiment chouette ce qu'on fait. Donc, puisque j'ai envie que ce soit toujours chouette... Bah, il faut aussi que j'apprenne à dire non à certaines choses. Voilà.
Trop cool. Waouh, j'adore cet épisode. Enfin, en gros, j'ai l'impression, voilà, t'es plus avec moi, t'as plus de maturité, et j'ai l'impression que tu dis beaucoup de choses dont je me rends pas encore assez compte.
Oui.
Vu que je suis jeune, je suis dans l'énergie, je suis dans l'action, mais je pense que j'ai besoin d'entendre. Donc, je trouve ça trop cool parce que c'est ça que j'aime beaucoup avec les podcasts, je trouve que ça fait grandir.
Oui.
Moi, je sais que ça m'a énormément fait grandir et que ça fait 3 ans que j'en écoute maintenant et que c'est vraiment pour moi une forme d'éducation, quoi.
Bah, moi, j'adore aussi.
Ce qu'on nous dit pas, on peut l'entendre auprès de personnes qu'on apprécie et chez qui on aime tirer des conseils, quoi. Donc, merci pour ça.
Bah, de rien. Puis il faut libérer la parole.
Ouais, ce que tu fais très bien d'ailleurs.
Ouais. C'est important. Ouais.
J'ai envie de te poser la question du coup, signature du podcast, parce que je me demande vraiment ce que tu vas répondre. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Ouh, waouh! Je pense que c'est s'autoriser à être soi. C'est s'autoriser à faire ce qu'on veut faire, à être qui on veut être, envers et contre tout. Parce que moi, je me suis construite envers et contre tout. Je vais là où on ne m'attend pas et je décide pour moi et d'être 100% Gaëlle. 100% Gaëlle, c'est aujourd'hui, je suis comme ça, je suis... créatrice de contenu, créatrice de mode, je suis grosse, ok. Mais il se pourrait que, dans 3 ans, que je ne sois plus rien de tout ça. Et je dis souvent, si par exemple demain, je décide de perdre 50 kilos, ça ne va en rien contredire ce que j'aurais fait avant. Et on me verra par exemple jamais poster sur Instagram des photos avant-après. Regardez avant comment j'étais dégueulasse et aujourd'hui comment je suis trop une bombe. Parce que je considère qu'aujourd'hui je suis une bombe. Donc en fait, quoi qu'il arrive...
Il n'y a pas de sujet.
Voilà. Mais en fait, si je perds ces 50 kilos, je ne vais m'excuser auprès de personne. Et pour moi, c'est ça. Vraiment de prendre le pouvoir de sa vie. C'est d'être soi à l'instant T et de s'y tenir, surtout.
D'être fidèle à soi-même.
Ouais, d'être fidèle à soi-même.
Trop cool, j'adore, ouais. Ça te représente vraiment très bien. Merci. Bah écoute, je te remercie vraiment beaucoup Gaëlle d'être venue sur InPower, c'était un épisode vraiment très très inspirant et je pense que ça aidera beaucoup de gens. Si jamais vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le faire savoir à Gaëlle et à la suivre sur Instagram parce que moi j'adore voir tes photos dans mon feed, ouais. C'est toujours un rayon de soleil et souvent je me dis, Louise, tu commandes toujours rayon de soleil, mais c'est pas, c'est grave.
On me dit souvent que je suis rayonnante, bah écoutez, tant mieux hein.
Clairement, ça te représente vraiment bien. Donc j'imagine que pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent aller te suivre et en savoir plus sur toi, on les redirige sur Instagram.
Oui.
@gaëlleprudencio.
Exactement.
Sur ton blog.
Oui.
gaëlleprudencio.com.
Voilà.
Trop cool. Et de là, on verra aussi peut-être toutes les infos sur Ibilola, ta marque.
Exactement, oui.
Que je mettrai dans tous les cas dans la barre de description, donc allez voir.
Ok.
J'ai hâte de voir déjà tes prochains looks et ce que tu as prévu pour la suite. Donc merci beaucoup Gaëlle et j'espère à très vite.
Merci. À bientôt, Louise.
Merci beaucoup de vous être joint à notre conversation avec Gaëlle. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant @inpowerpodcasts et @gaëlleprudencio pour qu'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez aussi vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. Je vous remercie encore de m'avoir écouté jusqu'au bout, ça me touche beaucoup et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.